Bonjour, bienvenue. Est-il nécessaire de présenter ces deux messieurs? J'imagine que si la salle est pleine et que vous êtes tous là, c'est que vous les connaissez bien. Nous allons vivre un moment assez extraordinaire parce que figurez-vous que vous allez vivre une première au Livre sur les quais. C'est la 7e édition. Néanmoins, il va y avoir un test, si je peux dire, aujourd'hui. On va voir si vous aimez ce moment. C'est que contrairement aux autres débats, rencontres, où il y a un journaliste entre et avec les auteurs, nous allons laisser ces deux messieurs, M. Boris Cyrulnik et M. Jean-Louis Servan-Schreiber, entre eux, s'interviewer, se poser des questions sur leur ouvrage, leur dernier ouvrage, sur la vie, et les laisser être ensemble. Je vous propose qu'on imagine qu'ils sont chez l'un ou chez l'autre, dans leur salon, en train de se retrouver, puisque ces messieurs se connaissent, et on va voir ce qu'ils ont à se dire sur leur ouvrage, sur leur vie. Et vous allez avoir donc une petite heure, et dans une petite heure, je reviendrai pour créer le lien avec vous, que vous puissiez leur poser des questions. Donc, beaucoup de plaisir à ce petit moment privilégié, et messieurs, la parole est à vous.
Boris, j'ai une proposition à te faire. En fait, nous avons le même âge, mais à 3 mois près. Et comme tu es l'aîné, je suppose que au privilège de l'âge, ça serait bien que tu parles le premier et que tu répondes à mes questions de journaliste, car je ne suis que journaliste.
Alors, avec plaisir. Je rêvais d'être journaliste, et si j'avais été équilibré, je serais devenu journaliste.
Mais ah bon, je ne savais pas que ça m'était
Mais par bonheur, j'étais déséquilibré, donc je suis devenu neuropsychiatre. Alors oui, je veux bien prendre la parole parce que pour réaliser un rêve d'enfance, me comporter comme un journaliste. Alors j'ai passé avec Jean-Louis Servan-Schreiber, j'ai passé avec la famille Servan-Schreiber que j'ai connue
une vingtaine d'années, au moins.
Il y a très longtemps, mais j'ai passé avec Jean-Louis et Perla des moments très agréables. Et là, j'ai passé avec ce livre des moments très agréables aussi. Bonjour mesdames, bonjour monsieur, il y en a un là qui est... Donc, ce livre est à l'image de ta personnalité, c'est-à-dire on croit que c'est un bavardage élégant. Détrompez-vous, ce livre pose toutes les questions fondamentales de notre existence. Sous forme, on va réfléchir, alors il y a des petits dessins qui allègent le texte, eh bien détrompez-vous, c'est un livre de fond. Alors, je vais commencer par ma première question. Je sais qu'on a fréquenté Cioran, tous les deux, et moi j'ai le livre de Cioran devant moi, à côté de celui de Hannah Arendt. Mm-hmm. Alors, parce que Hannah Arendt, passionnante, elle a été follement agressée, et j'ai envie de prendre sa défense tellement je la trouve juste, solide, et intelligente, et elle m'apprend beaucoup de choses. Et à côté, il y a le livre de Cioran qui me fait mourir de rire par son cynisme. Alors, par exemple, il dit « On se suicide toujours trop tard
». Il dit aussi « Je voulais me suicider, mais c'était trop tard
». Alors, il y a une phrase de Cioran que Jean-Louis cite. C'est sur l'espoir. Quand vous êtes toujours là, dit-il, je n'ai rien à espérer, je ne supporte pas ce bonheur triste. Typique d'une phrase de Cioran. On croit que c'est drôle, ça mérite une réflexion.
Oui, alors désespérer, c'est peut-être, comme tu as vu, presque le premier mot de mon livre. Et c'est une des réflexions philosophiques qui m'a inspiré assez tôt, puisque je la dois à André Comte-Sponville dans son premier livre il y a maintenant 35 ans, qui s'appelait d'ailleurs « Traité du désespoir et de la béatitude ». Les deux mots étant mis en parallèle. Et au fond, il nous disait, et c'est quelque chose qui m'a paru évident, c'est que espérer, ce n'est pas vivre, parce que c'est attendre quelque chose. Et que vivre, c'est être dans le présent, dans l'instant, être le plus possible dans le présent et dans l'instant, et que dès qu'on espère, on se projette. Et si on se projette, on n'est pas là. Alors, je crois que c'est exact philosophiquement, et ça m'a paru une bonne référence à avoir à l'esprit. Ça l'est beaucoup moins en pratique dans l'existence. Parce que, et là je me retourne vers l'homme qui a eu infiniment plus de contact avec ce qui se passe à l'intérieur des individus que tous ceux qui ne font pas son métier, et son beau métier, je crois qu'une certaine dose d'espoir est absolument indispensable pour passer la journée, sur des petites choses, quelquefois sur des grandes. Mais il me semble que idéalement, l'espoir, en même temps, il faut y croire, et en même temps, il ne faut pas en être dupe. Voilà.
D'accord, mais vivre sans espoir, c'est un gigot sans sel, un baiser sans moustache. Il nous faut...
Oui, mais c'est comme le sel, hein. C'est à la fois indispensable pour donner de la saveur au mets, et en même temps, c'est pas recommandé pour la santé.
Alors, il y a aussi des pages qui m'ont beaucoup... Parce que l'ennui de ce livre, c'est qu'on peut s'arrêter sur chaque... C'est fait sous forme de petites réflexions, c'est-à-dire deux, trois pages, un petit dessin très drôle... Un petit peu à l'assurance, c'est-à-dire un petit peu la logique absurde. C'est logique, et pourtant, c'est des phrases absurdes qui ont leur logique absurde. Alors, il y a deux choses que j'ai envie d'élaborer avec toi. C'est la lucidité. Est-ce qu'on est vraiment lucide quand on croit voir le monde? Ou est-ce que le monde qu'on voit n'est pas tout simplement une production, une construction de notre histoire?
Je retrousse mes manches. Hein. Évidemment. Évidemment. Et ça, ça fait partie de, je dirais, dans un oxymore que j'aime beaucoup, ça fait partie des évidences secrètes. Nous sommes... Nous ne pouvons pas être autre chose que notre propre version du monde pour une raison très simple. C'est qu'en naissant, nous ne savons rien du monde et qu'au cours de notre vie, il va falloir l'apprendre, il va falloir le pratiquer et il va falloir l'abandonner. Et que cet apprentissage, chacun le fait à sa manière. Prenons notre cas. Nous sommes nés tous les deux en 1937. Nous sommes nés tous les deux en 1937. Mon père était juif, ma mère non, tes parents étaient juifs. Il fallait quand même, de leur part, une forme d'optimisme irraisonné pour mettre au monde un enfant à ce moment-là. Et puis, nous avons été précipités dans la vie avec... une probabilité de ne pas survivre très longtemps. Boris, là, a échappé à peine, par la peau des dents et des circonstances, à ce destin qui était promis à tous les enfants juifs nés en 1937. Moi, pas. Mes parents étaient passés en zone libre et j'y ai eu une enfance, justement, à peu près normal, et nous n'avons pas eu le même parcours de vie. Nous nous retrouvons maintenant au XXIe siècle, chacun ayant suivi, ayant d'une certaine manière échappé à un destin funeste, et en même temps en nous retrouvant dans un tout autre univers. Lui a été psy, moi j'ai été journaliste et observateur. chacun de nous a un monde construit qui est différent. Et ce monde, en même temps, il entre en rapport, puisque nous sommes capables de dialoguer, puisque nous sommes capables même d'avoir une empathie mutuelle. Et c'est cela qui m'intéresse beaucoup. Nous sommes complètement différents les uns des autres, puisque par définition, le mix, même si on a suivi les mêmes études, même si on a les mêmes parents, ça ne veut pas dire que ça se combine de la même manière en gènes. Si on a suivi les mêmes études, on n'en retire pas les mêmes choses. Et c'est cette diversité qui me paraît être fondamentale pour que l'on ne se fasse pas d'illusions sur les vérités que l'on assène. Chaque vérité que l'on assène est ma vérité au moment où je la dis, peut pas être autre chose, et je me méfie beaucoup de ceux qui émettent des vérités pour les autres.
Alors effectivement, quand on arrive au monde, on est né la même année. C'était pas une année terrible. Mais je pense que dans les circonstances économiques tragiques, dans les chaos culturels, pendant les périodes de guerre, les rencontres sexuelles prennent une signification très différente. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une sorte de... L'affection est plus vive encore, et la sexualité, c'est la vie. C'est-à-dire que au moment des chaos culturels et pendant les périodes de guerre, les couples sont fortement solidarisés, et mettre au monde un enfant dans un contexte où logiquement on ne devrait pas, psycho-affectivement on doit. C'est-à-dire que pour des raisons psycho-affectives, c'est le moment où on a envie de se blottir, d'avoir des rencontres sexuelles et de mettre au monde des enfants. Alors que logiquement, c'est pas logique. On est toujours dans Cioran, là. Oui. On est toujours dans la logique absurde.
Absolument.
Et probablement, on est peut-être né d'une logique absurde, alors.
Oui, ben, c'est pas désagréable.
Mais heureusement que les hommes sont fous, parce qu'ils sont passionnants. Imaginez que les hommes soient pas fous. Il n'y aurait rien à en dire, alors que là, qu'est-ce qu'on a comme livre à écrire, comme réflexion à faire? Donc, alors, ce que tu dis, je le partage totalement, quand on arrive au monde, on ne sait rien, on a tout à apprendre. Et au dernier chapitre de notre existence, enfin, on a compris qu'on ne sait rien. Mm-hmm. C'est-à-dire, et qu'on a passé notre vie à chercher à comprendre et qu'on n'a pas compris. On s'est donné l'illusion de la compréhension, mais ça ne fait rien. Le fait de chercher, ça embellit notre vie. Le fait de chercher, ça nous a invités à lire, ça nous a invités à rencontrer, ça nous a invités à voyager. Et donc, finalement, ça a donné sens à notre vie. Alors, donc, finalement, on a de la chance d'être né en 1937, d'autant qu'on est de la qualité d'avant-guerre.
Qui se perd.
On disait ça des camemberts, vous savez. Qualité d'avant-guerre. Mais votre serviteur, il n'y a que de l'os et la matière grasse. Il n'y a pas un poil de muscle. Ah oui, voilà une question que je voulais te poser. Il y a un passage sur Monsieur Muscle. Il ne s'appelle pas comme ça, mais moi j'ai envie de l'appeler Monsieur Muscle. Oui. Parce que sur le plan, les jeunes ne savent pas que il y a quelques décennies, leurs parents, leurs grands-parents faisaient du social avec leur corps. Les femmes faisaient du social avec leur ventre. Elles devaient mettre au monde le plus d'enfants possible parce que la sexualité, dans ce contexte-là, avait une signification sacrée et sociale. Signification sacrée, mettre au monde une âme pour adorer Dieu. Signification sociale, mettre au monde un garçon plus qu'une fille, parce que les filles étaient entravées, les féministes nous le rappellent beaucoup, elles n'ont pas tort, mais il fallait mettre au monde, on héroïsait les garçons, ce qui était une manière de les sacrifier, en les faisant travailler 15 heures par jour, 6 jours par semaine, ou en les envoyant dans les tranchées. Et on faisait du social avec la violence. Et que vous êtes sûrement le seul moment dans l'histoire humaine où, en France, de 62, la fin de la guerre d'Algérie, à aujourd'hui, il y a eu 2-3 générations sans guerre, où la violence n'était que destruction. Destruction du couple, destruction des enfants, destruction du groupe. C'est probablement dans la première fois dans l'histoire humaine qu'il y a 60 ans, 70 ans sans guerre. Et dans ce contexte-là, la violence n'est que destruction. Mais je travaille beaucoup dans les pays du Proche-Orient. Dès que la guerre réapparaît, la violence devient une valeur culturelle. Et un garçon qui n'est pas violent est un garçon méprisé. Et alors là, voilà, on a commencé la soirée, la matinée en souriant. Là, je viens de mettre... Là, je vais vous déprimer pendant tout le reste de la journée, mais Jean-Louis va nous remonter le moral.
Sur la violence, qui est également un sujet qui me fascine beaucoup, j'ai écrit il y a 4 ans un papier pour dire « Le monde est moins violent », tout simplement, pour dire ce que tu viens de dire, et en apportant bien sûr les chiffres. Et en montrant que jamais dans l'histoire humaine on a eu aussi peu de morts par violence, soit crime, soit violence guerrière, et qu'il y a infiniment plus de morts par tabagie, infiniment plus de morts par suicide, etc. Donc c'est devenu marginal. Le phénomène qui me fascine, je suis journaliste, c'est que cette marginalité prend une place considérable dans l'information, du fait des médias qui sont un haut-parleur permanent et qui me font quelquefois penser à Big Brother, c'est-à-dire une société où il y a des haut-parleurs qui obsèdent les gens sur tel ou tel sujet et qui existaient aussi dans certains régimes totalitaires. Nous sommes soumis à une espèce d'effet de loupe sur la violence. Tous les jours, on nous explique, tous les soirs, vous pouvez être sûr que vous trouverez une information disant qu'il s'est passé des choses atroces dans la journée. Le tout dans un contexte où, statistiquement, c'est faux. Donc, ce qui me paraît maintenant, et comme on vient de le dire, tout ce que nous croyons vrai n'est qu'une représentation que nous nous faisons de quelque chose qui existe. En matière de violence, c'est particulièrement le cas. Et nous sommes conditionnés, et nous allons probablement en France l'année prochaine voter avec des gens qui voteront en fonction de l'idée qu'ils se font d'une violence intense, alors que dans la réalité, c'est quelque chose qui est extrêmement cadré. Et le fait que ce soit cadré, et que ça le soit depuis maintenant longtemps, est une des choses qui peut transformer, faire de ce siècle éventuellement un âge d'épanouissement exceptionnel pour l'humanité, à la réserve de toutes les conditions qui font que malheureusement ça peut être le contraire. Mais c'est la base, c'est la paix. C'est parce que ça fait 60 ou 70 ans de paix que nous avons pu avoir le taux de croissance, la longévité, l'enrichissement et le recul de la pauvreté dans des proportions considérables partout dans le monde. Là aussi, on nous dit la pauvreté gagne. C'est faux. Donc, en prenant de l'âge en tant que journaliste, je suis devenu de plus en plus critique de mon métier. Heureusement, je pense que Boris ne peut pas se dire la même chose sur le sien, parce que le sien est plus bénéfique que le mien. Même si le mien est nécessaire, mais exercé avec une modération qui, malheureusement, pour le moment, n'existe pas. Mais donc, nous sommes conditionnés, tous les jours, en tout cas, en matière de médiatique, par des informations qui ont à peu près toutes les chances d'être fausses. Je ne voulais pas trop vous inquiéter.
Alors, ce que tu nous expliques, je trouve ça remarquable parce que tu dis ce que je pense.
Alors, c'est exceptionnel.
Alors, qu'est-ce qu'il pense bien ? Alors, dans l'enchaînement des idées, notre culte, si on arrive à rester en paix, ce qui est possible, c'est pas certain, non. Si on arrive à rester en paix, ce qui nous socialise maintenant, c'est plus la violence. C'est le diplôme, l'art de la parole et les machines. Ce qui veut dire que dans ce contexte-là, les femmes font d'excellentes performances. Et que ce soit pour les diplômes, dans tous les pays du monde, elles sont plus diplômées que les garçons. Dans tous les pays du monde, et je donne des cours en Algérie, 70% des bacheliers en Algérie sont des femmes. Donc, ça va poser un problème anthropologique, ça. On fait la hiérarchie sociale avec le diplôme, alors qu'avant, on faisait la hiérarchie sociale avec le corps. On fait la hiérarchie sociale avec l'art de la parole, et là encore, les femmes sont performantes, puisqu'on a fait des observations. Tous les enfants commencent à parler entre le 20e et le 30e mois, mais les petites filles à 17 mois ont déjà 50 mots et un début de règles de grammaire. Les garçons ne font cette performance qu'à l'âge de 22 mois. Ça reste entre nous, ça. Hein, ça sort pas de la salle. Hein, ça... Donc, et puis, comme les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes, ben, c'est elles qui ont le dernier mot. Alors... Donc, ça va poser un... Et l'art des machines, les femmes étaient intimidées par les... Elles sont toujours intimidées par les machines, mais dès qu'elles se mettent aux machines, elles les maîtrisent très vite et très bien. Donc, est-ce que ça pose pas un problème, si on reste en paix, est-ce que ça pose pas un problème fondamental pour les sociétés à venir?
Oui. On va une fois de plus être d'accord. Bon, enfin, bon, vous allez vous y faire. Ce problème est fondamental pour moi. J'ai eu la chance d'avoir 3 filles. Qu'est-ce qui rend un homme plus féministe plus que le fait d'avoir des filles, déjà, à la base? Mais je crois que je comprends pourquoi les hommes ont si longtemps voulu tenir les femmes en tutelle et minorer leur place dans la société. Je le comprends parfaitement. Parce que, dans leur grande sagesse, ils savaient que s'ils les éduquaient, c'était foutu pour eux. Et c'est ce qui s'est passé, mais avec une vitesse mais absolument invraisemblable, en 2 générations, même pas. Et qui se produit également, et c'est là où c'est intéressant, même dans les pays qui, disons-le franchement, sont totalement rétrogrades dans ce domaine, c'est-à-dire l'ensemble musulman, mais à des degrés différents, plus ou moins intenses, quelquefois atroces, quelquefois non. Mais il y a incontestablement, on peut observer dans les pays de culture musulmane encore cette rémanence de ce que pouvait être la maintien en tutelle des femmes. Mais pas partout et plus pour longtemps. En Afghanistan, on empêche, les talibans essayent d'empêcher purement et simplement les filles d'aller à l'école. Mais si vous allez au Maroc ou si vous allez en Iran, elles vont à l'école et évidemment, elles ont des meilleurs résultats. Résultat, l'âge de mariage qui, il y a 2 générations au Maroc, était pour les filles autour de 16-17 ans, et maintenant de 28 ans. 28 ans, en 10 ans d'augmentation, en à peine 40 ans. Résultat, le taux de reproduction en Iran est tombé en dessous du taux de reproduction européen moyen. Il est de 1,6, alors qu'en France, il est encore de 1,9 à 2. Et ça, c'est pas, ils n'ont pas fait en Iran une campagne pour la contraception. Le meilleur contraceptif, c'est apprendre aux femmes à lire. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, elles prennent conscience elles-mêmes de ce qui est raisonnable de faire pour elles. À partir de ça, comme Boris, je suis absolument persuadé qu'il y a, parmi les choses qui vont transformer complètement le 21e siècle et qui vont faire que c'est un siècle de rupture par rapport à l'histoire précédente, il y a la montée des femmes partout. 40% des entrepreneuses en Chine sont des femmes. Il y a la montée des femmes, il y a les Chinois et il y a le numérique. Et puis, il y a les manipulations génétiques. Avec ces 4 éléments-là, le monde de demain ne ressemblera en rien à celui que nous avons vécu et même à celui que vous pouvez observer aujourd'hui. Maintenant, savoir comment il sera, ça sera l'objet de beaucoup de livres qui se tromperont beaucoup.
Alors ça, c'était la question que je préparais, c'est que, en fait, c'est vrai qu'on voit le monde avec nos idées, bien plus qu'avec nos yeux. Et nos idées dépendent beaucoup de notre histoire dans notre contexte social et culturel. Quand on est arrivé au monde en 1937, autour de nous, il n'y avait que des vieux. En 2016, autour de nous, il n'y a que des jeunes.
La preuve.
Comment tu expliques ça? C'est-à-dire...
Oui, ça m'appelle une anecdote. Quand mon père est allé pour la première fois en Union soviétique, ça devait être vers 1938, on lui a fait visiter tout. Il était quand même assez épaté, parce que quand un occidental visitait les maisons collectives, les kolkhozes, organisations, etc., il y avait quelque chose qui était assez fascinant. Et il est quand même passé dans les églises, et dans les églises, il y avait du monde. Alors il dit, mais vous êtes contre, vous avez voulu supprimer la religion, pourquoi il y a du monde dans les églises? Ils ont dit, oh, bon, c'est les vieux. C'est les vieux, bon, ils avaient l'habitude, il en reste quelques-uns. Et puis il est retourné en Union soviétique en 1958. Et des promenades, ça avait fait beaucoup de progrès, il a écrit des livres là-dessus à ce moment-là. Et puis il est passé dans les églises et elles étaient pleines. Alors il dit, mais pourquoi? Ah ben c'est que des vieux. C'est notre tour.
Alors, tu écris à un moment, quand je crois me souvenir, ce n'est souvent qu'une approximation de ce qui a vraiment eu lieu. Alors là, j'ai envie d'entendre un peu ta réflexion là-dessus, parce que en neurologie actuellement, c'est mot à mot ce que les neurologues disent. Puisque maintenant, avec la neuroimagerie, on voit les traces cérébrales d'une information et on voit comment on traduit cette trace avec des mots. C'est-à-dire que, et n'ayant pas connu le même milieu, n'ayant pas la même famille, n'ayant pas le même contexte, n'ayant pas les mêmes manières de recevoir les informations, on se construit forcément des mondes différents. Et le monde qu'on voit, comme on le disait tout à l'heure, c'est le monde qu'on se construit. Et tu appelles ça une supercherie tragique. Alors comment va-t-on faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut penser de l'objectivité?
Ça sera mon dernier mot, puisque après c'est moi qui vais prendre la parole pour interroger Boris. Mais c'est la bonne question à poser à un journaliste. L'objectivité, ça me rappelle une phrase de Cioran. Qui nous a probablement réjouis l'un et l'autre, parce que nous sommes très sensibles aux sardoniques bien envoyées. Cioran, un jour, dans un élan de franchise ultime, dit « Au fond, je ne suis qu'un déconneur. » Et ça valorise toute son œuvre. Parce que tout ce qu'il écrit, on sait que, quelque part, c'était un peu blague dans le coin. L'objectivité, malheureusement, c'est une illusion tragique des journalistes. Ils se croient objectifs parce qu'ils ont ramassé certains éléments et ils ont essayé de les mettre ensemble sans, croient-ils, le biaiser par une opinion trop marquée. C'est ça, être objectif pour un journaliste. Sauf que, par définition, comme nous sommes nous-mêmes, chacun... pétri des opinions que nous avons acquises et dont nous avons fait le cocktail qui nous convenait, du moment que nous choisissons des faits parmi d'autres faits, c'est déjà une prise de position. Donc, l'objectivité, une fois pour toutes, je crois que je l'ai remplacée par simplement la sincérité. Au moins que ce qui est dit par rapport à ce que l'on a envie d'exprimer reflète vraiment ce que l'on pense soi-même. C'est déjà un énorme effort. Mais promettre l'objectivité, c'est évidemment une supercherie tragique.
Monsieur Jean-Louis Servan-Schreiber, êtes-vous un mammifère?
Et comment?
Alors Boris a écrit un livre qui s'appelle « Ivre paradis et bonheurs héroïques ». Et au fond, ma première question, c'est pourquoi ce titre qui est déjà poétique?
Alors, c'est un titre volontairement poétique parce que je pense que dans la poésie, ça suggère des mots imprécis auxquels on donne le sens qu'on a envie de donner. Donc, la poésie invite à penser. C'est par là, ça se passe par là. Alors, Ivre paradis, on nous parle beaucoup de paradis et pendant tout le Moyen-Âge chrétien, notre vie sur Terre se passait dans une vallée de larmes entre deux paradis. Le paradis perdu à cause de la faute d'Adam et Ève et le paradis à retrouver plus tard si on avait accepté de bien souffrir dans la vallée de larmes qui représentait les 30-40 ans d'espérance de vie pour les femmes et les 50-60 ans d'espérance de vie pour les hommes. Alors voilà pourquoi j'ai choisi, après négociation avec Odile, hein, qui est une éditrice terrifiante, hein, mais donc après négociation, on est tombé d'accord sur ce titre volontairement approximatif.
Oui, alors je te cite, la vie est un champ de bataille, la fadeur des jours, le malheur de vivre. Et ça, c'est assigné dès le début. Est-ce que c'est un constat? Et dans quelle mesure est-ce que tu partages ce constat, non seulement à ton expérience, mais à celle de ce que tu entends tous les jours de la part de gens qui te parlent d'eux?
Alors, je pense que dans l'expérience de psychologie que je me suis donnée, et que je me donne encore, hein, parce que j'ai l'impression, comme tu le disais tout à l'heure, l'illusion de comprendre. Hein, j'ai l'illusion de commencer à comprendre, mais je pense que je n'ai pas encore fait ma puberté, donc après, je comprendrai. Alors, les gens qui venaient réfléchir avec moi avaient tous une expérience tragique. Ce qui ne veut pas dire qu'ils se sentaient voués au malheur. Ils avaient une expérience tragique, et ils essayaient d'en faire quelque chose pour mieux vivre. C'est-à-dire que ce n'était pas le bonheur qui tombait du ciel, comme la drogue. C'était au contraire le bonheur à construire à partir d'une vie difficile. Alors je pense que dans la salle, statistiquement dans la salle, une personne sur deux a connu un traumatisme. Et dans cette même salle, tout le monde a connu des épreuves. Et pourtant, on continue à chercher, à arracher des moments de bonheur en discutant, en lisant, en s'invitant à dîner, en venant à Morges. Je ne savais pas que c'était si beau, Morges. Donc on a, malgré ce fondement tragique de l'existence, on passe notre temps à chercher, à arracher des moments de bonheur. Et peut-être que le bonheur, c'est une utopie, avec le bonheur qu'on éprouve en rêvant et avec la tragédie que contiennent les utopies, parce que les grandes tragédies sociales ont presque toujours été provoquées par des utopies. Donc, je dis que l'utopie, c'est comme l'étoile du berger. Ça nous indique un chemin. Mais il faut que l'utopie reste au ciel. Il ne faut pas qu'elle descende sur terre. Parce que toutes les utopies totalitaires qui sont descendus sur Terre se sont aboutis à des tragédies sociales.
Alors justement, ce livre donne beaucoup d'exemples et j'ai pas compté une par une, mais je dirais, j'ai le sentiment qu'à peu près deux tiers des exemples que tu donnes sont issus de la Seconde Guerre mondiale, de la période de la Seconde Guerre mondiale et en particulier des tragédies utopiques qui ont été à leur origine. Est-ce que ça résulte d'une expérience personnelle, puisque c'est quelque chose de fondateur pour toi, ou est-ce que ça n'est pas aussi parce que c'est pour nos générations, et je comprends maintenant les jeunes, celles qui sont beaucoup plus jeunes que nous,
c'est le grand, est-ce que ça n'est pas le grand récit, comme l'a été pour l'Antiquité l'Odyssée, ou comme l'a été Gilgamesh, c'est-à-dire ce récit dans lequel on trouve un peu la source de toutes les illustrations de ce que l'on doit vivre dans la vie?
Alors ça aussi c'est une question de neurologue, c'est-à-dire qu'on n'est pas sensible à tout du monde, on est sensible à presque rien du monde. Parmi les milliards de milliards d'informations que notre corps et notre cerveau traitent, on n'en prend pas conscience. Par exemple, on est tous en train de lutter victorieusement contre l'attraction terrestre. Sinon, on serait écrasés au sol tous. Notre corps et notre cerveau trouvent les solutions et règlent le problème. Personne n'en prend conscience, sauf si je le dis, et dans ce cas-là, je le mets en conscience. Or, c'est vrai pour les milliards de milliards d'informations qui nous bombardent depuis qu'on est arrivé au monde. Ce presque rien nous constitue. Ce presque rien qui arrive en conscience, c'est notre identité. Alors, notre identité, elle dépend de notre histoire. C'est-à-dire que nous, de la génération de la qualité d'avant-guerre, les guerres qu'on a connues, parce qu'on a connu deux guerres, on a connu la guerre de 40 et la guerre d'Algérie. Et quand ces événements nous ont rendus particulièrement sensibles à tout ce qui est un risque de guerre. Quand j'entends parler d'une guerre, quand j'entends parler d'une maltraitance, d'un enfant, d'une femme, d'un être humain, ça me parle. Et je suis personnellement touché quand j'entends parler de l'abandon d'un enfant ou d'une violence conjugale, ça me parle de moi, ça me touche. Parce que mon enfance, l'enfance des gens de notre génération, nous a rendus particulièrement sensibles à ce genre d'informations qu'on met en mémoire et qui n'est pas ce que nos enfants mettent en mémoire. Nos enfants vont mettre en mémoire d'autres informations. En plus, neurologiquement, puisque tu poses des questions de neurologue, on n'est pas sensible à n'importe toutes les informations selon l'âge de notre vie. Quand on est bébé, les informations qui nous touchent le plus, c'est l'affection. Toiletter, faire un bisou, nourrir, parler, parce que parler à un bébé, ça a une fonction affective, mais bien plus que informative. On avait fait, près de Toulon, les premières observations sur la manière dont les femmes enceintes communiquent avec le bébé qu'elles portent. Et on s'était rendu compte que le corps, et surtout le liquide amniotique, filtre les hautes fréquences, et que les basses fréquences, au contraire, viennent vibrer contre la bouche et contre les mains du bébé qu'elles portent. C'est-à-dire que quand la mère parle, elle caresse le bébé qu'elle porte. Et alors, Françoise Dolto était ravie parce que c'était sa thèse. Donc, elle était ravie et elle m'invite rue Cujas à Paris. Et alors, je lui explique ce que je suis en train de vous résumer. Pour frimer un peu, j'ai montré des courbes, j'ai montré des analyses d'ultrasons. Enfin, elle était quand même très contente. Et à ce moment-là, au fond de la salle, il y avait une jeune maman avec un bébé et le bébé se met à gémir. Alors Françoise Dolto dit à la jeune maman, « Madame, on va voir si M. Cyrulnik a raison. Dites quelque chose à votre bébé. » Alors la jeune femme était impressionnée, parce que Françoise Dolto était impressionnante. Alors la jeune maman est impressionnée, elle s'approche du bébé et puis elle lui dit, « Papa a été augmenté. » Eh bien le bébé a souri. Alors, ce qui a fait sourire le bébé, c'est le visage de sa mère qu'il reconnaissait et les basses fréquences de sa voix qu'il reconnaissait aussi. Donc, parler à un bébé, c'est sculpter son affectivité. Donc, c'est une question de neurologue que maintenant la neurologie rend manipulable scientifiquement, mais que des psychologues, des philosophes s'étaient posés de manière... du psychanalyste comme Françoise Dolto s'était posé de manière clinique ou humaine.
Alors justement, c'est quelque chose qui, à la lecture de ton livre, donne l'impression que ça dépasse le stade du nourrisson et que ça va très très loin dans l'existence. Et que, à travers les héros,
Si j'ai à peu près compris, la figure des héros nous permet de nous éviter de réfléchir. Par exemple, tu écris pour se sentir appartenir à un groupe, il faut adopter ces textes sacrés, entre guillemets. La liberté de penser est angoissante car elle isole des autres. Donc, est-ce qu'au fond, la liberté est quelque chose que les gens choisissent spontanément ou est-ce qu'ils ne préfèrent pas la déléguer à quelqu'un d'autre?
Alors, ça, c'est la question tragique et c'est la question qui se pose actuellement dans le monde entier. Je pense que dès l'instant où on apprend à nos enfants à juger, on leur donne un degré de liberté. C'est-à-dire qu'ils ont le choix entre une théorie, une autre, un énoncé ou un autre. Mais pour ça, il faut lire, il faut rencontrer, il faut bavarder, il faut voyager, donc il faut se fatiguer. Et de plus, quand on arrive à affirmer quelque chose que la doxa, c'est-à-dire la récitation qui nous entoure, ne récite pas, ne dit pas, on est seul. Et quand l'histoire des sciences, l'histoire de les religions, l'histoire de la philosophie nous explique à quel point c'est dangereux d'être seul, parce qu'on se désolidarise du groupe, et à ce moment-là, le groupe nous considère comme quelqu'un d'antisocial, et que beaucoup de gens qui éprouver le plaisir physique de penser était condamné parce que en pensant par eux-mêmes, ils se désolidarisaient des récitations du groupe. Sauf que la récitation du groupe, c'est pas une pensée, c'est la pensée paresseuse, c'est le slogan. Et tous les régimes totalitaires proposent des slogans. Les mots ne sont plus des outils de pensée. Ce sont des outils de récitation qui ont une fonction importante, c'est de vivre ensemble. Si on récite en même temps les mêmes slogans, si on chante en même temps les mêmes chansons, si on a ensemble les mêmes préjugés, on va se sentir en familiarité. Donc celui qui ne récite pas la même chose, qui ne dit pas les mêmes mots, qui ne chante pas les mêmes chansons, c'est un marginal, c'est un antisocial qui devient moral de rééduquer, de déporter, de torturer, d'excommunier. Enfin, tous les participes passés sont venus. C'est-à-dire que c'est un plaisir physique de penser, mais c'est dangereux. La liberté de penser est un danger.
Alors, est-ce que justement, et reprenons ce moment fondateur qui, à mes yeux, fait le grand récit pour les générations qui suivront, l'élection du chancelier Hitler en 1933. Car on ne sait pas, les jeunes ne savent pas assez à quel point Hitler est arrivé au pouvoir par des voies légales. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que, à ce moment-là, le peuple allemand, comme un enfant qui a été traumatisé, était en détresse et que la proposition que lui faisait cet homme d'une théorie et d'un avenir ne tombait pas au bon moment de vulnérabilité de ce comportement collectif, mais on n'avait jamais compris à ce moment-là qu'il y a des comportements collectifs de cet ordre.
Alors, ta question illustre ce que tu as écrit sur l'illusion tragique. C'est-à-dire que l'illusion nous rassemble et nous soigne, nous euphorise, mais elle est tragique. C'est-à-dire que en 1929, le parti nazi avait 2,6% des voix. Et quand on disait aux Allemands, qui à cette époque-là, comme aujourd'hui, étaient un des peuples les plus cultivés de la planète, il y avait une culture germanique qui était extrêmement belle, ils nous ont fourni des scientifiques, des philosophes, des musiciens. Ils ont embelli la culture occidentale, les Allemands. Et c'est chez eux qu'il y a eu cette tragédie qui a provoqué une catastrophe mondiale. C'est dans ce peuple cultivé qu'il y a eu cette catastrophe mondiale. Et quand on disait aux Allemands, mais regardez ce qui est en train de se préparer chez vous, ils répondaient, oh mais il n'y a que 2,6% des gens qui ont des théories absurdes. 10 ans après, c'était 95% de la population qui était obligée de claquer des saluts hitlériens. 10 ans pour une épidémie de croyances mortelle. Aujourd'hui, une épidémie de croyances grâce à Internet se déclenche en quelques mois, parfois même plus vite. Alors, notre contexte technologique a changé. Il a bouleversé la condition humaine, comme chaque fois qu'il y a une découverte technique, elle bouleverse la condition humaine et elle bouleverse la manière dont on se pense. Alors, donc, là, ce qui est en train de se passer, moi, je dis, c'est, j'ai travaillé à Kigali, au Rwanda, je vais souvent dans les pays du Proche-Orient qui sont des pays magnifiques, avec des cultures magnifiques, avec des individus magnifiques, avec des politiques terrifiantes. Et quand je vais... Et je pense sans arrêt à ce que tu viens de dire. Je me dis, mais au début, l'incendie, on peut le contrôler. Quand il y a un feu de broussailles, on peut taper, on peut se réunir à 3-4, on tape sur le feu de broussailles, on peut l'éteindre. Quand le vent souffle et quand l'incendie est parti, c'est trop tard. On ne peut plus l'arrêter. Et là, il y a une contagion des émotions, il y a une contagion des croyances qui nous embarquent tous. Même ceux qui pensent, même ceux qui veulent garder la liberté de penser, eh bien, ils sont embarqués comme les autres. C'est pour ça qu'il y a eu des grands penseurs, comme Heidegger, comme il y a eu des grands penseurs embarqués dans une épidémie de croyances comme la folie nazie.
Justement, à propos du Moyen-Orient et à propos de ce qui est en train de se passer et qui fait notre actualité évidente, quotidienne et quelquefois terriblement tragique. En gros, le phénomène globalement du djihadisme sous diverses formes. D'une certaine manière, j'étais presque surpris qu'il n'apparaisse pas directement dans ton livre. Et j'ai eu l'impression, en lisant ton livre, que je ne lisais que là-dessus. C'est-à-dire que ce besoin de héros, ce culte du héros, le fait de préférer ne pas penser soi-même, mais déléguer sa propre énergie et son propre destin à des figures réelles ou imaginées est le mécanisme qui explique en grande partie ces comportements atroces actuels. Donc j'ai trouvé dans ce livre un peu une grille de lecture de ce qui se passe.
Alors oui, c'est un peu ce que j'espérais en écrivant ce livre. Et j'ai trouvé une phrase de Michelet, l'historien, qu'on peut lire dans La Sorcière, un livre à la fois d'histoire et d'anthropologie très agréable à lire, avec un style romantique très, très agréable à lire. Et en substance, Michelet écrit « Quand les sorcières apparaissent, quand l'État est défaillant. » Et elles prennent le pouvoir dans un désert de sens. C'est-à-dire qu'on est tous responsables du désert de sens. Il faut des écrivains, il faut des gens qui nous bousculent, il faut des gens qui posent des questions, qui turlupinent, il faut des marginaux, il faut des artistes qui nous montrent des films qui nous désorientent. Parce que la pensée paresseuse, c'est la doxa, c'est-à-dire le pouvoir qu'on donne au langage totalitaire. C'est la pensée paresseuse. On renforce nos convictions. Or, le doute, c'est le premier degré de la liberté, puisque si on doute, c'est qu'on a un choix entre deux solutions. Premier degré de liberté. Dans les convictions, on n'a plus le choix, on sait. Quelqu'un nous a dit où est la vérité. Et c'est le chef religieux, idéologique, ou parfois scientifique. Parce que même dans les conditions scientifiques, il y a... Même dans les...
Si c'est une ambulance, ça va passer. Si c'est les pompiers, il vaut mieux sortir. C'était une ambulance.
Même dans les milieux scientifiques, il y a toujours quelqu'un qui essaye de couler la théorie du collègue. Et ici, il la coule pas toujours avec des débats scientifiques, il la coule parfois avec des actes malveillants pour faire fermer son laboratoire, pour empêcher de penser, pour couler son congrès. Donc la pensée totalitaire, elle peut être religieuse, elle peut être idéologique, elle peut être scientifique, et peut-être que nous-mêmes, d'ailleurs, on peut se laisser... C'est la pensée paresseuse qui nous apporte beaucoup de bénéfices.
Alors justement, citation pour citation, il y en a une que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis longtemps, c'est celle de Burckhardt, qui est un penseur suisse d'ailleurs du début du XXe siècle, et qui dit « l'essence de la tyrannie est le refus de la complexité ». Et est-ce que derrière tout ce que nous observons en ce moment, il n'y a pas cette séduction d'une pensée binaire ? C'est bien ou c'est pas bien, quoi. Et tous ceux qui sont pas bien, c'est-à-dire comme moi, il vaudrait mieux les éliminer.
Alors, c'est la pensée qu'on travaille avec Edgar Morin, et c'est la pensée des théories de la résilience. Hein, c'est-à-dire que nous, on dit que la science, les scientifiques, ont pris le pouvoir culturel grâce à la fragmentation du savoir. Ils ont eu des prix Nobel avec des micromolécules, avec des micros, et ils l'ont mérité. Ils ont changé notre culture avec cette pensée fragmentée. Mais sur le plan idéologique, ce que tu viens de dire, on arrive à des explications binaires abusives, des causalités abusives. On a trouvé la cause. Il n'y a pas une cause. Même dans maladie, il y a une convergence de causes. Donc il faut s'entraîner à raisonner en termes systémiques, en termes de pensée complexe, comme dit Edgar Morin. Nous, on emploie plutôt l'expression de pensée systémique, c'est-à-dire un système de pensée. Or, c'était très critiqué quand on a commencé à essayer de penser comme ça il y a 30 ou 40 ans. Oui. On a été très critiqué. Aujourd'hui, c'est la pensée recommandée par les grandes instances de la recherche. Mais beaucoup de chercheurs ont du mal avec la pensée systémique parce qu'elle est moins profonde que la pensée fragmentaire, où on creuse son sillon et on va de plus en plus loin. Et si on veut faire une carrière ou si on veut avoir le prix Nobel, ce qui est notre ambition...
plus tellement.
C'est un petit prix. C'est un petit prix. Si on veut... On a intérêt à avoir la pensée fragmentée. J'allais faire un lapsus, la pensée fragmenteuse. Mais si on veut comprendre ce qui a été l'enjeu de toutes les revues et de tous les livres que tu as écrits, comprendre. Si on veut comprendre ce qui est l'enjeu d'un praticien que j'ai été, parce que quand quelqu'un s'asseyait près de moi, il s'asseyait avec son corps, son cerveau, son histoire, sa culture, sa religion, et moi, praticien, il fallait que j'écoute un peu tout de tout ça. Donc moi, j'étais invité par le fait d'être praticien, comme toi, c'est une autre forme de pratique, j'étais invité à une pensée transversale, à une pensée systémique. Donc nous, dans mes groupes de recherche, on n'a pas de mal à s'entraîner. Mais dans beaucoup de laboratoires, il y a encore des gens qui préfèrent la pensée fragmenteuse.
Alors il y a une question qui personnellement me hante beaucoup, c'est depuis maintenant une décennie environ. C'est ce qui est en train de se produire en matière de ce que j'appellerais le culte de la mort. Jamais on a vu autant de gens qui se donnent la mort pour la donner aux autres et qui y vont un peu en masse. On a l'impression qu'il y a la queue pour le suicide héroïque dans ce type de combat. Qu'est-ce qui peut expliquer que notre époque, plus avancée que les précédentes, par définition, produise des milliers et des milliers et des milliers de jeunes qui se font sauter parce que c'est leur destin. Ça ne s'était pas produit avant, même dans les guerres les plus atroces. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, dans Fragments de lucidité, il y a quelques pages sur cette question qui a parlé de nos travaux. J'ai été invité par Jeannette Bougrat, qui a été notre ancienne secrétaire d'État, à remettre au gouvernement français un rapport sur le suicide. Et j'ai fait ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai rassemblé une équipe hétérogène de biologistes, de psychologues, d'anthropologues, de sociologues, pour essayer de répondre à ta question, parce que c'est la question qu'on ne peut pas ne pas se poser. Au fin 19e siècle, Durkheim, un grand sociologue, établit une première corrélation. Il y a un pic de suicide chaque fois qu'il y a un bouleversement social. Révolution, effondrement économique, pic de suicide. Je rentre de Chine et je demande aux psychologues chinois est-ce qu'il y a actuellement, où il y a un bouleversement social stupéfiant en Chine, est-ce qu'il y a actuellement un pic de suicide ? La réponse est claire, il y a les courbes, parce que les Chinois sont des gens très très organisés, étonnamment performants. Il y a un énorme pic de suicide, alors qu'il y a un bouleversement social qui est un immense progrès technique et matériel, et il y a actuellement un énorme pic de suicide, surtout chez les femmes. Alors que, comme tu le rappelais tout à l'heure, les femmes en Chine comme ailleurs dans le monde n'ont jamais eu d'aussi bonnes conditions d'épanouissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Comment expliquer ça ? Alors, je rentre d'Helsinki, et pays d'Europe du Nord, où là, ils avaient le déterminisme social expliqué par Durkheim, et ils ont ajouté le déterminisme éducatif de la toute petite enfance, des interactions précoces des premiers mois de la vie. C'est-à-dire que au cours, alors la question neurologique encore, au cours des premiers mois de la vie, un bébé préverbal, entouré, sécurisé, acquiert une petite confiance en lui, il s'exprime, il sourit et il provoque des interactions. Mais un bébé abandonné ou isolé au cours des premiers mois de la vie, on photographie sans difficulté au scanner, à la résonance magnétique, on voit sans aucune difficulté une atrophie des deux lobes préfrontaux qu'on voit sans difficulté, qu'on photographie, qu'on mesure, et qui n'inhibe plus l'amygdale rhinencéphalique qui est le socle neurologique des émotions intenses. Et quand on associe le déterminisme social avec le déterminisme neurologique et affectif, on découvre que quand il y a un bouleversement social, même si c'est un progrès, celles qui se suicident sont celles qui ont été isolées précocement au cours des premiers mois de la vie. On a là une pensée systémique. Et quand je parlais avec les Chinois, je disais, mais comment se fait-il que dans tous les pays du monde, les femmes pensent plus au suicide que les hommes, mais les hommes aboutissent plus au suicide que les femmes? Comment ça se fait qu'en Chine, les femmes pensent plus au suicide que les hommes et aboutissent au suicide quatre fois plus que les hommes? Et la réponse a été parce qu'elles ont perdu l'étayage affectif. Quand les femmes chinoises vivaient dans un village, elles étaient entravées socialement, mais sécurisées affectivement. Il y avait toujours quelqu'un autour d'elles. Actuellement, ce dont je témoigne, ce que j'ai vu, elles vivent dans les hôtels, elles montent des entreprises. Au petit déjeuner le matin, il y a la réunion avec le chef d'entreprise, et parfois c'est elle-même le chef d'entreprise. Il y a la réunion au café au matin, et on fait le programme de la journée. Elles font des performances extraordinaires, mais en cas de solitude, il n'y a pas de soutien affectif. Et elle passe à l'acte.
Alors, c'est une explication passionnante. C'est la première fois que je l'entends, en particulier avec cette observation sur la Chine, qui est très peu connue ici. Elle a comme conséquence de tout mettre sur le destin individuel. En ce qui concerne les suicides de type djihadiste que nous constatons, ils ont quand même quelque chose en commun qui paraît, en tout cas, être commun. C'est une référence à une croyance collective et, d'une certaine manière, un suicide qui n'est pas simplement une initiative individuelle,
mais qui s'inscrit dans un mouvement guerrier qui leur a été d'une certaine manière suggéré. Ce sont souvent des. C'est vrai qu'il y a quelquefois, il y en a quelquefois qui ont des comportements complètement autodéterminés, mais la plupart, c'est à la suite d'une imprégnation de ce genre. Donc, est-ce que ça veut simplement dire que les recruteurs savent déceler les caractères prêts à cela, ou est-ce que c'est parce qu'il y a aussi une dimension idéologique?
Alors, ma réponse serait que la technologie, ce que je proposais tout à l'heure, que la technologie modifie la manière dont nous représentons nous-mêmes. Les femmes, en 1929, on découvre le blocage hormonal de l'ovulation. 1929, il y a des réactions idéologiques tellement fortes que impossible de travailler sur ce qu'on appelle la pilule, parce que c'était immoral. Qu'une femme puisse vouloir contrôler son ventre, devenir maître de son destin, c'était considéré comme immoral. Et en France, ce n'est que 40 ans plus tard que la pilule a été commercialisée, autorisée légalement, et après un combat parfois cuisant. La condition des femmes est bouleversée, pas seulement en France, pas seulement à Saint-Domingue, où les femmes ont été les premières à prendre la pilule, mais dans le monde entier, parce que les femmes savent aujourd'hui, toutes les femmes du monde entier, savent qu'elles peuvent être maîtres de leur destin. Ça change complètement l'idée qu'elles se font d'elles-mêmes. Or, ce qui arrive actuellement en Chine et aux Chinoises, il n'est pas dit que ça n'arrive pas en France et en Suisse ou en Europe. C'est pas dit que ça n'arrive pas, parce que l'invention technologique stupéfiante, Internet, on va dire comme ça, les réseaux sociaux, est en train de bouleverser la manière dont on se représente et la manière dont on fait nos familles. Avant, la famille, le couple, était la seule solidarité. Les femmes le payaient cher. Les hommes payaient aussi, mais les femmes payaient de l'entrave de leur du développement de leur personnalité. Aujourd'hui, elles s'expriment autant que les hommes, mais elles vont prendre un métier au Japon, pendant que le frère va prendre un métier aux États-Unis, pendant que les parents sont en train de prendre leur retraite en Allemagne, ou en Suisse, ou en France. Et on se voit, alors on s'envoie des messages affectueux, mais le corps à corps de l'affection, de la parole, du bisou, du repas partagé, il existe une fois par an, et encore, pas tous les années. Donc ça veut dire que ce progrès incontestablement technique qui change l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, les hommes un peu, les femmes énormément, est en train de modifier la signification de la famille, est en train de modifier la signification de mettre au monde un enfant, est en train de modifier la signification de la sexualité. Il n'y a jamais eu aussi peu de rapports sexuels qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal non plus, on ne va pas s'en plaindre. Hein. Mais la signification n'est plus la même. Avant, il fallait mettre au monde des enfants, des garçons de préférence. Et les femmes, ça peut être utile pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants sont en train de prendre la signification d'une entrave au développement un peu des hommes, beaucoup des femmes. Donc même mettre au monde un enfant, faire un couple, faire une famille, ça aussi c'est en train de changer de signification.
Alors, comme le temps est échu, je voudrais évidemment poser une dernière question, mais je suggère que je la pose à nous deux, qui est simplement de dire, au fond, notre vie est en grande partie derrière nous, c'est statistiquement exact, quoi qu'il arrive. Est-ce que au cours de ces, mettons, 74 dernières années de lucidité, le temps d'accéder à la lucidité, est-ce que tu as l'impression que la condition humaine a changé ?
Elle n'a pas changé, elle est bouleversée, elle est métamorphosée. Être homme, être femme aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec être homme. Être femme, il y a deux, trois générations. C'est plus la même manière d'être humain. Tous les problèmes sont à repenser. Comment va-t-on vivre avec les femmes ? C'est plus les mêmes. C'est plus... Comment va-t-on se coordonner avec elle, les gars, monsieur, comment on va faire Donc, elle nous pose des problèmes. C'est-à-dire, alors, les enfants, avant, quand j'étais gamin, on n'a pas eu le même milieu de développement. Quand j'étais enfant, toutes mes copines d'enfance étaient à l'usine après le certificat d'études. 12 ans, 13 ans, ce qui est interdit par la loi aujourd'hui. Les filles de 12 ou 13 ans travaillaient 10 heures par jour. Et le contremaître, la contremaîtresse, je ne sais pas si on peut dire comme ça, chronométrait le temps où elles allaient aux toilettes pour ne pas rester assises trop longtemps parce que ça diminuait leur rendement. Quelle femme aujourd'hui va s'imaginer ça? Aucune. Un garçon qui n'était pas violent était méprisé par sa propre mère, ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps en territoire palestinien. Un garçon qui n'est pas violent, un garçon qui ne se bat pas, est méprisé par sa mère. Et quand j'étais enfant, un garçon qui ne se bagarrait pas à l'école, sa mère le traitait de femmelette. Donc, allez dire ça aujourd'hui, c'est impensable. Donc la condition humaine est métamorphosée par les machines.
Alors, c'est intéressant. L'homme qui scrute l'âme des humains nous dit que tout a changé à cause de la technique et de l'évolution sociale. Moi qui suis journaliste et qui pratique ces outils, et qui suis aussi observateur, plus j'avance maintenant, plus j'ai le sentiment que la condition humaine n'a pas changé. Alors, au fond, comme souvent, c'est une histoire de sémantique. Je crois que ce que tu viens de nous décrire, c'est les conditions de la vie humaine, les conditions dans lesquelles se déroule la vie humaine. Mais peut-être que moi, ce que j'appelle la condition humaine, c'est le destin de chacun, du fait de vivre, de ne pas savoir pourquoi, du fait de devoir mourir et de ne pas savoir pourquoi. Et en avançant, je prends en compte justement ces bouleversements absolument stupéfiants, et je suis entièrement d'accord, et qui sont d'ailleurs positifs, qui ont allongé notre vie, qui font que nous communiquons facilement, qui font plein de choses. Mais finalement, je me demande, qu'est-ce que ça change à ce qui est la construction même de l'existence d'un humain, indépendamment de tout ce qui l'entoure.
Alors je comprends mieux, mais moi j'aurais pas dit la condition humaine. Condition, c'est les conditions de notre existence, les conditions de notre développement. Et ta remarque, que je partage totalement, hein, ta remarque, c'est métaphysique. Mm-hmm. Pourquoi est-on sur Terre? Pourquoi est-on mis sur Terre un jour? Pourquoi sera-t-on démis de la Terre un autre jour? Donc ça, c'est la question métaphysique. Et M. Cro-Magnon, notre ancêtre à tous, se posait la même question. Mais ça, c'est la... Alors, appeler ça condition humaine, oui, pourquoi pas. Moi, j'aurais dit essence humaine.
Oui, je comprends, mais j'ai utilisé à dessein un mot ambigu.
Alors, vous terminez sur un lieu où vous avez une autre vision qui est magnifique. C'est pas terminé, mais je vous propose, quelle richesse, qu'on les remercie déjà pour ce temps.